Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Anna Holweck, préparée par Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois, Roxane Poulain et Léa Sabourin. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. Deuxième temps de notre série consacrée aux disrupteurs de l'échiquier politique en 2019. Hier, nous avons ouvert la semaine en parlant de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous examinons celle du président turc Recep Tayyip Erdogan, dont les ruptures successives depuis le début de l'année ont mis nombre de ses alliés dans l'embarras.
Ne diyor, NATO'nun... Il dit que l'OTAN est en train de vivre une situation de mort cérébrale. Je m'adresse depuis la Turquie à M. Macron et je le redirai à l'OTAN. Vous devriez d'abord vérifier si vous n'êtes pas en état de mort cérébrale.
Dans le domaine de la défense, nous entreprenons un certain nombre de pas importants. Et avec mon cher ami Vladimir Poutine, nous cherchons à établir la paix et la stabilité sur le territoire de la Syrie.
Lorsque 50 000 migrants ont atteint la ville frontalière de Kapıkule, vous avez pleuré. Que feriez-vous si la Turquie ouvrait les portes de la frontière? Avez-vous réfléchi? Attention, si cela va plus loin, les portes des frontières seront ouvertes, soyez-en conscients. Ni moi, ni cette nation ne nous soucions des menaces vaines.
Vous avez écouté le président Erdogan s'en prendre verbalement à Emmanuel Macron le mois dernier, tenir une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine à Sotchi en octobre et enfin commenter le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en 2016. Premier ministre en 2003, président en 2014, réélu en 2018, Recep Tayyip Erdogan est un animal politique dont l'affirmation autoritaire s'observe de plus en plus à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur. Depuis le début de l'année 2019, il a multiplié les provocations vis-à-vis de la communauté internationale, qu'il s'agisse de sa décision d'intervenir militairement au nord-est de la Syrie contre les alliés kurdes de la coalition anti-Daesh ou de l'acquisition du système de défense antiaérienne russe S-400, jugé incompatible avec celui de l'OTAN, dont fait pourtant partie la Turquie. Sur le front européen, Ankara a poursuivi sa politique de chantage vis-à-vis de la question migratoire, dont elle contrôle l'un des principaux robinets. Plus récemment, le président turc a menacé d'intervenir militairement en Libye pour soutenir le gouvernement du Premier ministre Fayez al-Sarraj contre la rébellion du maréchal Haftar. Les provocations disruptives d'Erdogan ont ouvert une crise au sein de l'OTAN où certains se demandent si la Turquie, seul pays musulman et pilier de l'Alliance, y a encore sa place. Pour l'instant, la réponse est oui, compte tenu de sa position stratégique, frontalière de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak. Ankara est toujours considéré comme un acteur indispensable à la stabilisation régionale. La bonne entente avec les Turcs doit aussi être préservée pour contrôler le retour des anciens combattants européens de Daesh. Mais jusqu'à quand les alliés pourront-ils fermer les yeux si la Turquie continue ainsi à s'affranchir des règles du jeu ? Comment expliquer le rapprochement d'Erdogan avec Poutine qui inquiète tant les Occidentaux ? Quel est le bilan de la diplomatie turque qui s'était donnée pour slogan il y a quelques années « Zéro problème avec les voisins » et se retrouve finalement en indélicatesse avec la plupart ? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Dorothée Schmidt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient, auteur de « La Turquie en 100 questions » aux éditions Talendier, paru en 2017. Ariane Bonzon, bonjour.
Bonjour Isabelle Lasserre.
Vous êtes journaliste et vous avez publié cette année aux éditions Empreinte, Turquie, l'heure de vérité. Alors, je voudrais commencer par une question générale, Dorothée Schmidt. Est-ce que la Turquie court depuis un certain nombre d'années après un statut de puissance mondiale? Est-ce pour cela qu'elle est aussi disruptive?
Alors, Cette course, effectivement, à la reconnaissance, au statut de puissance, à la fois de puissance régionale et de puissance internationale, il a d'abord été placé sous le signe plutôt d'une diplomatie de de médiation, de bonne entente, comme vous le disiez, de bonne entente avec les voisins, à l'époque où Ahmed Davutoğlu, le fameux d'abord ministre des Affaires étrangères, d'abord conseiller diplomatique, puis ministre des Affaires étrangères, puis premier ministre de la Turquie, avait décidé que finalement le soft power, à la fois la puissance économique, la puissance culturelle et la capacité de médiation de la Turquie étaient les instruments essentiels d'action extérieure. Donc ça a été toute une période pendant laquelle la Turquie essayait d'accentuer sa présence aussi dans tous les cadres de travail multilatéraux, à l'ONU par exemple. Et donc ça a été une espèce de période bénie où la Turquie a surgi sur la scène internationale comme une puissance positive, je dirais. Aujourd'hui, je pense que, à la fois parce que Davutoğlu a été débarqué par Tayyip Erdogan, dont on va parler aujourd'hui, et aussi parce qu'on a eu une montée en tension extrêmement forte dans le voisinage de la Turquie, après les printemps arabes, essentiellement à partir de 2011, et surtout la crise syrienne, dont j'imagine qu'on va beaucoup parler. À partir de là, la Turquie est devenue une puissance « dure », entre guillemets. C'est une puissance qui, pour la première fois depuis les opérations à Chypre en 1974, est intervenue pour combattre à l'extérieur de ses frontières. C'est une puissance qui donc cherche à nouveau à s'imposer comme un pouvoir militaire, et qui est dans un rapport de force très clair avec d'autres puissances régionales, mais aussi avec ses alliés traditionnels de l'OTAN et qui s'est rapproché de la Russie, notamment parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est aussi quelqu'un qui a réussi à s'imposer au Moyen-Orient, en partie par la force.
Vous avez la même vision, Ariane Bonzon, à partir de quand peut-on dater le durcissement et le caractère disruptif du président Erdogan ?
Alors effectivement, on est passé de ce soft power à hard power. En particulier, parce que c'était la grande différence entre Erdogan et Poutine, parce que Erdogan n'avait pas à sa main l'armée. Et il l'a depuis les années, disons, 2010, il a enfin réussi à reconstituer, et en particulier 2016, le faux coup d'État, il a réussi enfin à reconstituer une armée à sa main, qui est sans doute moins efficace que l'année précédente, mais il a le pouvoir militaire, ce qu'il n'avait pas du tout, alors que Poutine l'a. Ça, c'est un élément extrêmement important qui explique aussi sans doute son offensive dans des domaines où avant, il était plutôt low profile, parce que l'armée avait son autonomie. Maintenant, elle est vraiment sous sa direction et il développe aussi une industrie militaire importante. Donc ça, c'est effectivement aussi ça qui explique le changement, si vous voulez. On voit qu'il est beaucoup plus assuré sur ces bases-là. Mais effectivement, c'est aussi la Syrie qui a été le grand tournant. Et alors, dans la relation avec l'OTAN, il faut comprendre quand même que l'OTAN s'est alliée avec les Kurdes autonomistes qui sont en Syrie, qui sont l'ennemi numéro un de la Turquie. Donc, c'est très difficile pour la Turquie d'accepter cette alliance-là. De la même manière, l'OTAN considère que si elle s'est alliée avec ces Kurdes autonomistes, c'est bien contre Daesh, qui est la menace sécuritaire pour l'Europe en particulier. En revanche, Erdogan, enfin la Turquie, considère finalement comme moins dangereux que les Kurdes autonomistes.
On va aborder les sujets les uns après les autres, mais donc on va commencer par l'OTAN. Dorothée Schmidt, est-ce que la Turquie a encore sa place au sein de l'OTAN ? Est-il envisageable qu'elle s'en extrait ?
Ça, c'est deux questions différentes en réalité. Donc, d'abord, je pense que la Turquie a complètement sa place au sein de l'OTAN parce que l'OTAN aujourd'hui est dans un moment de redéfinition de son rôle, de ses missions, et qu'il est très évident que la plupart des problèmes de sécurité auxquels l'Alliance, si elle continue d'exister, aura à faire face, une bonne partie d'entre eux, en tout cas, se situe au Moyen-Orient. Une autre partie se situe à l'interface avec la Russie. Et n'oubliez pas que la Turquie est rentrée dans l'OTAN pendant la guerre froide pour être le pilier de l'OTAN face au bloc de l'Est. Donc je pense que la Turquie, qui est un grand pays, dont on sait que c'est la deuxième armée en hommes de l'OTAN, qui est une armée qui est plutôt bien équipée, même si aujourd'hui il y a précisément ce petit problème d'équipement avec ce jeu de balance entre la Russie et les États-Unis pour se fournir. Mais c'est aussi une armée qui aujourd'hui est en train de reprendre de l'expérience au combat. Donc c'est un allié qui, en réalité, si on raisonne en termes strictement militaires, est un allié très précieux. Et pour la Turquie, évidemment, faire partie de l'OTAN, c'est une garantie de sécurité énorme, extrêmement importante. Et on voit très mal la Turquie sortir de l'OTAN, puisque d'abord, il n'y a pas de mécanisme pour l'en exclure. Hein. C'est quand même un club du consensus, l'OTAN. Il faut qu'on s'entende. Et c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, au dernier sommet à Londres, qui a été évidemment un sommet très bousculé, très compliqué, mais où finalement, je crois que la plupart des analystes se sont accordés pour dire que L'enjeu pour la Turquie, c'était de faire reconnaître ses propres enjeux de sécurité, ses propres intérêts en matière de sécurité. On n'a pas été dans le sens de la Turquie au point de dire qu'on allait s'aligner avec la Turquie pour combattre les anciens alliés kurdes dont Ariane parlait. Mais néanmoins, il y a très largement des annonces qui ont exprimé une forme d'empathie des alliés de l'OTAN vis-à-vis de toutes ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Turquie.
Marine Bonzon.
Deux choses importantes. Les relations entre la Turquie et l'OTAN n'ont jamais été calmes. Fluide. Rappelez-vous, en 1974, invasion de Chypre par la Turquie, ça a été un grand froid entre les États-Unis, entre l'OTAN et la Turquie. Puis en 2003, le Parlement turc a refusé à l'OTAN, en tout cas aux Américains, que les GI passent par la Turquie pour aller en Irak. Donc les relations, on a déjà vu des tensions. La question, c'est de savoir est-ce que là, on est monté d'un cran. Et ça, je crois qu'effectivement, on est tout à fait monté d'un cran, à tel point que la question de l'article 5 de l'OTAN se pose.
Donc celui qui stipule la défense collective de l'OTAN. Hein.
C'est-à-dire, dans quelle mesure, dans cet exemple même de l'invasion de la Turquie dans le nord de la Syrie, l'opération Source de Paix, qui a eu lieu donc en octobre, elle a mis ses alliés l'OTAN devant le fait accompli. Dans quelle mesure, si jamais il y avait eu un retour de bâton, si jamais elle avait été attaquée, etc., dans quelle mesure l'OTAN doit être solidaire de la Turquie? Et c'est ça la grosse question.
Bah, c'est le doute qui a été formulé par Emmanuel Macron dans son interview Asie Economist. Mais l'autre question, on pourrait renverser aussi le sujet et se demander si est-ce que les alliés peuvent encore compter sur la Turquie dans un cas où la sécurité régionale de l'Europe serait en jeu. À partir du moment où on a un pays, la Turquie, qui s'allie à l'un des principaux ennemis de l'OTAN, la Russie, ça devient très compliqué, non, Dorothée Schmidt?
Tout dépend si vous placez dans un cas où effectivement la Russie est impliquée dans une menace vis-à-vis de l'Union européenne. Ou des alliés européens qui font partie de l'OTAN. Si on revient un moment sur la Syrie pour essayer de comprendre comment s'est construite cet antagonisme en fait entre la Turquie et le reste de ses alliés à l'OTAN, on a une Turquie qui s'est engagée très rapidement dans le conflit syrien, à la fois sur le plan politique, sur le plan diplomatique et indirectement sur le plan militaire en aidant un certain nombre de factions syriennes qui combattaient Bachar al-Assad, puisque le but des Turcs c'était d'arriver à la destitution de Bachar al-Assad. Et la Turquie, depuis le début de la crise syrienne, a décidé de laisser ouverte sa frontière. Elle a 900 km de frontière avec la Syrie, ce qui a permis le passage des réfugiés. Aujourd'hui, on a 3-4 millions de réfugiés syriens encore en Turquie. Ce qui a permis le passage des mouvements opposés à Bachar al-Assad de tous ces gens qui sont devenus en partie aujourd'hui des supplétifs turcs dans la lutte contre les Kurdes. Mais ce qui a permis aussi le combat des combattants étrangers de Daesh. Ça a été suffisamment reproché à la Turquie. Et puis, à partir de 2013, les Turcs ont réalisé qu'il y avait des questions de sécurité qui se posaient à cette frontière. Laisser cette frontière ouverte mettait la Turquie dans une grande position de vulnérabilité. Et on a eu une demande de déploiement de missiles de défense de l'OTAN, les fameux Patriotes, à partir de 2013. Au fur et à mesure que les relations se sont tendues avec les partenaires de l'OTAN, la plupart des pays ont décidé de rapatrier leurs patriotes, si je peux faire cette formidable assonance, ils ont décidé de ne plus fournir à la Turquie cette espèce de bouclier qui était finalement un bouclier psychologique, puisque c'est des missiles de défense anti-aérienne et qu'il n'y avait pas de menace aérienne a priori qui posait sur la Turquie. Mais c'est aussi ce qui a permis à la Turquie de commencer à négocier les fameux S-400 avec la Russie. Si vous ne me donnez pas une défense à la mesure de ce à quoi je peux prétendre en tant que membre de l'OTAN, je vais aller chercher ailleurs parce qu'aujourd'hui, ma sécurité est en jeu. Et donc, on est sur les S-400, sur un sujet qui est un sujet à la fois symbolique, de solidarité avec l'OTAN, l'autre question étant celle de l'article 5 de la défense collective. C'est aussi un sujet qui est devenu un sujet technique, tout simplement.
C'est-à-dire l'aspiration des données des bombardiers F-35
c'est
américains.
C'est la construction d'une défense autonome turque qui est en jeu derrière ça aussi, comme Ariane l'évoquait. Et puis, c'est une coopération militaire technique entre la Turquie et la Russie qui pourrait devenir plus forte, alors que précisément, on est en bisbille avec les États-Unis. Donc, on est parti d'un sujet qui peut sembler presque mineur, qui était finalement cet engagement très fort politique et puis aussi humanitaire évidemment de la Turquie sur la question syrienne, jusqu'à arriver à une situation absolument indéfaisable, extrêmement embrouillée du point de vue de l'OTAN, mais où finalement aucun des partenaires n'a envie de casser totalement le cadre.
Ariane Bonzon, est-ce que d'où cette relation assez particulière entre Erdogan et Poutine, est-ce qu'elle est très solide? On a toujours dit qu'elle ne durerait pas, et finalement on la voit se poursuivre dans la durée. De quelle nature est-elle? Est-ce qu'elle est basée sur la personnalité entre les deux hommes, ou sur les intérêts des deux pays, ou sur une opposition à l'Occident et aux États-Unis, ou tout à la fois?
À certains égards, on est absolument dans le sujet de votre émission. C'est-à-dire, voilà deux disruptifs.
Ah oui.
Prenons par exemple justement la Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, la position de la Turquie, c'était celle de la France, en gros. Elle soutenait les rebelles. Bon, à part le petit problème avec les Kurdes, si tu veux, il y avait quand même une certaine cohérence. Et tout d'un coup, virage à 180. Alliance avec Poutine. Et on en est aujourd'hui à un point où Idlib, qui avait été quand même la dernière poche négociée par la Turquie avec Poutine, dire « Bon, laissez, ne matraquez pas Idlib, là on met tous les rebelles, vraiment il faut protéger cette... » Enfin, même la Turquie s'était même portée presque caution qu'on n'allait pas bombarder. Regardez ce qui se passe actuellement. Donc là, il y a quelque chose, on voit qu'il mange énormément quand même son chapeau face à Poutine, il faut quand même le dire. Je veux dire, il y a sur un certain nombre de points, par exemple, il voulait une grande zone après son invasion d'octobre, il voulait une zone importante à la frontière,
une zone de sécurité,
il a eu 100 km et non pas les 300 km auxquels il aspirait, je pense qu'il n'a jamais rêvé. Mais il y a sans doute eu aussi un deal, c'est-à-dire, tu me donnes Idlib, je te donne la zone, vous voyez. Donc, on sent quand même qu'il y a un marchandage.
Donc, des échanges d'intérêts entre la Russie et la Turquie en Syrie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui fondent la relation entre Poutine et Erdogan?
Alors, je pense que la relation... Il y a des choses communes, pays émergents tous les deux, mais relations à l'Europe et relations aux États-Unis, compliquées, dans les deux cas. Sur la Libye, vous vous rappelez ce qui s'est passé, Poutine était furieux de ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'opérations militaires, en particulier de la France, sans l'assentiment, il a eu l'impression d'être trahi, quoi, sans l'assentiment des Nations Unies.
Et vous parlez de la Libye en 2011, hein, voilà, vous parlez du renversement de Kadhafi, qui a été considéré à Moscou comme une extrapolation de la résolution du Conseil de sécurité, et les Russes en ont beaucoup voulu à la France et à la Grande-Bretagne.
Absolument.
Qui ont mené cette opération de destitution.
Et là, on voit que Erdogan est en train d'agir sur la Libye. Donc ça, c'est intéressant aussi, ce qui va se passer. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, des Libyes, mais là, il y a quelque chose d'intéressant sur la coordination, l'articulation entre les deux hommes. Moi, je dirais que c'est ça qui est intéressant. C'est que, en tant que géopolitique, comment ces deux hommes s'articulent? Comment, parfois, on a l'impression que ce que fait Erdogan est exactement ce que voulait Poutine? Sur les réfugiés qui vont en Europe, la menace des réfugiés, sur un certain nombre de... Et que Poutine, lui, reste relativement sobre, vous voyez? On a un peu l'impression qu'il fait que Erdogan fait un certain travail pour Poutine.
Dorothée Schmidt, est-ce que, en fait, Poutine utilise Erdogan pour ses basses œuvres? Ou est-ce que tous les deux rêvent de la grandeur passée de ces deux anciens empires? Est-ce que leurs personnalités sont faites pour s'entendre?
Alors, je pense que tous les deux rêvent de grandeur passée, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Comme Ariane vient de le souligner, il y a ce rapport très compliqué à l'Europe, qui pour les Turcs s'incarne comme Union européenne, avec toutes ces tracasseries de la négociation d'adhésion, dont les Turcs pensent que c'est une négociation, alors qu'en fait, il s'agit simplement de transposer en Turquie le droit communautaire européen. Et donc, on a symboliquement un affrontement à l'Occident qui s'est construit avec deux pays qui se considèrent comme étant à la lisière de cet Occident, qui se considèrent comme étant européens au moins en partie, et qui se sentent finalement rejetés par les Européens. Donc il y a une vraie question symbolique extrêmement forte là-dessus. Et puis il y a ces ambitions de puissance régionale, avec une Turquie qui quand même, elle, est dans un environnement moyen-oriental qui est vraiment son voisinage complet, alors que les Russes sont déjà très au-delà de leurs frontières, et donc interviennent pour consolider finalement une position de puissance, et dans un affrontement qui là encore est plutôt symbolique avec les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis désertent le Moyen-Orient, quittent la Syrie, les Russes apparaissent comme le vainqueur et comme ceux qui sont porteurs de solutions. Donc c'est une énorme victoire. Les Turcs sont plutôt embourbés dans la crise syrienne. Et finalement, quand Poutine arrive et leur propose une sorte de solution qui est ce moyen terme sur la frontière turco-syrienne, de repousser effectivement les combattants kurdes et puis de mettre en place ces patrouilles conjointes, ça arrange les Turcs parce que ça leur permet de dépenser moins de force pour obtenir à peu près le résultat qu'ils souhaitaient. Mais je pense néanmoins que les Russes ont eu un petit peu chaud sur cette affaire et que là, on n'a pas eu une sorte de planification stratégique en amont par Poutine. Il se trouve qu'à la fin, ça a servi tout à fait ses intérêts. Mais je pense qu'il y a des moments où pour les Russes, la question est celle de contenir les Turcs, de contenir les coups de chaud disruptif d'Erdogan, avec un peu les moyens du bord, parce que malgré tout, on l'a dit aussi, la Turquie, c'est une force militaire qui n'est pas négligeable, même si aujourd'hui elle fait appel à des supplétifs. Il y a une forme de milicianisation des forces armées de la Turquie, alors que les Russes interviennent, bon, pas toujours directement, il y a aussi des mercenaires, hein, mais là, on est vraiment dans deux puissances qui se jaugent et qui se touchent aussi sur le plan militaire. Et ça, les Européens s'en rendent moins compte parce que nous, on a quelques forces spéciales en Syrie, mais on n'est pas dans des hypothèses de déploiement massif dans la région.
Est-ce que vous parliez de cet affrontement
Oui, puis il y a aussi un sujet allez-y. Économique entre la Russie et la Turquie. Vous savez quand même, la Russie, ça a été pendant longtemps le grand pourvoyeur d'énergie des Turcs. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que les Turcs ont diversifié leur source d'approvisionnement énergétique en partie. Et puis aussi parce que la croissance turque est en berne. Mais néanmoins, tout le secteur de l'énergie turque est maintenant pratiquement aux mains des Russes.
Oui. Est-ce que ce rapprochement Turquie-Russie dont vous parliez, en fait, qui serait un miroir en fait d'une opposition vis-à-vis de l'Occident, c'est aussi parce que l'Occident est en retrait dans la région, et c'est aussi parce que de plus en plus de pays émergents s'inspirent du modèle chinois, qui est une ouverture économique et un contrôle très autoritaire au niveau politique. Est-ce qu'il y a cette tentation turque? Enfin, est-ce que la Turquie est en train de pencher du côté du modèle chinois plutôt que occidental?
D'abord, on a beaucoup parlé de néo-ottomanisme pour la politique étrangère turque. C'était l'idée que finalement, les Turcs étaient en train de se réinstaller dans leur espace historique ottoman. Donc ça concerne en grande partie le Moyen-Orient. Ça concerne aussi une bonne partie de l'Europe, je vous le rappelle, et notamment les Balkans. Donc là, on pourra parler un peu plus tard des attitudes et des annonces légèrement disruptives de Tayyip Erdogan en Méditerranée orientale. Donc on avait cette espèce de grand projet de réinstallation de la Turquie dans son environnement qui prédatait toutes ces grosses tensions qu'on voit aujourd'hui qui encore une fois ont quand même été déclenchées par les printemps arabes. On a quand même trois nouveaux conflits dans la région en Syrie, au Yémen et en Libye qui sont les résultats des soulèvements de 2011 et de leur suite, des débuts de guerre civile. Donc la Turquie, elle a été contrariée dans son projet de puissance douce, comme on le disait tout à l'heure. Elle a été d'une certaine façon contrainte de s'investir militairement, mais elle y a pris goût aussi en cours de route, parce que, indéniablement, Tayyip Erdogan est aussi quelqu'un qui a cette obsession de l'autorité dans son style diplomatique, et qui est extrêmement satisfait, comme le disait Ariane tout à l'heure, d'avoir réunifié sous son commandement le pouvoir civil et le pouvoir militaire en Turquie, et qui finalement aujourd'hui est en train de reconstruire une armée qui est dékémalisée dans une certaine mesure, c'est-à-dire détachée de ces anciennes références républicaines plus occidentalisantes qu'on avait, une armée qui est en train de s'équiper avec des armes en partie turques, et une armée qui est peut-être amenée à s'allier, d'abord à travailler différemment, comme on le disait tout à l'heure, avec des supplétifs, des mercenaires, etc. Et peut-être avec de nouveaux alliés de la Turquie. Donc on a un modèle qui, à mon avis, s'inscrit dans une continuité historique turque. On pourra parler des Chinois. Effectivement, aujourd'hui, les Chinois s'intéressent au Moyen-Orient, en très grande partie, à mon avis, parce que les Américains se retirent et qu'ils sont dans cet affrontement symbolique avec Donald Trump.
Ariane Bozon, sur toutes ces questions de modèle, en fait.
Sur l'armée, ça c'est très intéressant aussi de voir, c'est la grande question quand même encore inconnue. C'est-à-dire à quel moment l'armée va dire stop ou pas à Erdogan. Et quand on regarde de très près, par exemple, vous savez que quand la Turquie a fait son invasion du nord de la Syrie, il y a eu des communiqués extrêmement violents du ministère des Affaires étrangères contre, en particulier, la France qui a dénoncé cette invasion turque du nord de la Syrie. Extrêmement violent, et il y a eu des paroles très fortes du ministère de la Défense. Et quand on regarde le ministère de la Défense, là, en revanche, le communiqué était très sobre. Donc il faut regarder de très près ce qui va se passer. C'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que c'est Erdogan qui tient l'armée, mais regardons de très près ce qui va se passer, parce qu'il y a quand même une vraie continuité, même si l'armée a été repensée, qu'elle a été décamalaisée, il y a quand même encore ce qu'on appelle le kémalisme dur, c'est-à-dire un kémalisme nationaliste très dur qui reste un petit peu encore. C'est pas complètement une armée islamiste, hein, à vous dire. C'est la grande interrogation des années à venir. Comment l'armée va suivre ou pas Erdogan dans cette espèce d'offensive extrêmement importante qu'il mène, et ce qui est vraiment effectivement du hard power maintenant. Oui. Donc ça sera la question, et on va le voir sur la Libye par exemple. On va voir comment ça se passe.
On en parlera après, oui, de la Libye, mais justement, j'aimerais qu'on fasse un petit point, parce que cette armée, l'armée turque depuis 2016 a été victime de purges extrêmement importantes, à tel point qu'il y a eu des moments où elle dysfonctionnait, notamment au niveau de son pouvoir aérien. Il y avait plus de, voilà, il y avait plus de pilotes. On allait les chercher en prison pour les faire
la Turquie Charlie,
voilà. Donc ouais, elle en est où aujourd'hui, l'armée turque?
Bon, ben il y avait plus d'avions que de pilotes à un moment. Oui. Effectivement, elle a été quand même l'objet de plusieurs purges. Il y a eu une première purge dans les années 2007, 2009, 2010, hein, avec, oui, l'accusation de supposée tentative de coup d'État, hein, une première, alors qui avait enlevé une certaine fange de l'armée, plutôt les nationalistes, plutôt les pro-OTAN, si vous voulez, hein. Et à ce moment-là, les anti-OTAN, plutôt, vous voyez. Et puis, il y a eu une seconde salve de purge après le coup d'État, qui est allée bien au-delà du 1,5% de militaires qui auraient été impliqués dans cette tentative de coup d'État. Donc, on voit bien que là, il y a eu la volonté de profiter de cette tentative de coup d'État pour aller beaucoup plus loin et pour nettoyer vraiment. Il y a eu, je crois qu'il y a un tiers quand même des généraux qui ont été mis sur la touche. Et là, on retrouve l'OTAN, ce qui est intéressant, parce qu'il y a énormément de ces officiers pro-OTAN qui se sont enfuis et qui sont maintenant dans des pays de l'OTAN. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et donc l'armée maintenant, alors on dit qu'il y a un courant eurasiatique dont parlait, c'est-à-dire qu'effectivement, qui regarde plus vers la Russie, plus vers la Chine. Et donc cette tension-là, et c'est ça qui va être intéressant, et on va voir comment l'armée, parce que l'armée, elle est quand même encore sous le choc. Elle est quand même là, elle se reconstruit doucement, et on va voir la ligne, s'il va y avoir une ligne idéologique ou pas de l'armée, ou si elle va être simplement une exécutrice. Et je crois que ça, c'est quand même la grande question, en particulier effectivement parce que maintenant, elle s'allie avec des milices, par exemple en Syrie, et des milices extrêmement contestables, parce que c'est un ramassis à la fois de rebelles mais aussi de djihadistes. Il y a eu des études qui ont montré que 72 membres de cette armée nationale syrienne, qui est en fait cette milice turque, ces supplétifs turcs en Syrie, sont des anciens de Daesh. Donc là, on va voir, parce que l'armée n'est pas nécessairement... là, elle est beaucoup plus prudente vis-à-vis de Daesh qu'a pu l'être Erdogan.
France Culture, Culture Monde, Isabelle Lasserre.
Vendredi dernier, les États-Unis ont appris que la Turquie avait accepté la livraison du système de défense antiaérienne et antimissile russe S-400. Les États-Unis et les autres partenaires du programme F-35 se sont mis d'accord pour suspendre la Turquie de ce programme et initier le processus de son exclusion de manière formelle. L'achat par la Turquie du S-400 n'est pas cohérent avec ses engagements vis-à-vis de l'OTAN et aura un impact négatif sur sa capacité à opérer avec l'Alliance. En dépit de la décision de la Turquie de procéder à l'acquisition du système russe, le partenariat international autour du F-35 reste fort et inébranlable.
Culture Monde, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Rejoignons maintenant au téléphone à Bruxelles Marc Pirini, chercheur à la Carnegie Europe. Diplomate européen, vous avez été ambassadeur en Turquie entre 2006 et 2011. Vous avez récemment publié une tribune dans Le Monde le 15 novembre, dont le titre est un excellent résumé de la crise qui oppose Ankara à ses partenaires européens et américains. Appartenir au camp occidental ne correspond plus à l'idée que se fait M. Erdogan de la Turquie. Bonjour Marc Pirini.
Bonjour.
Alors, on l'a entendu, on va commencer par une petite question sur les S-400. Hein. On l'a un petit peu abordé en début de partie de cette émission. Est-ce que vous pensez, quel type de compromis est-il possible de trouver sur cette question qui est au cœur de la crise entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN? Est-ce qu'on peut en sortir et comment on peut en sortir?
Alors, à mon avis, techniquement, on ne peut pas en sortir. Depuis un an, je parle à beaucoup de généraux américains et autres, et il n'y a pas de solution technique. Ce n'est pas simplement, comme il a été dit, un système de défense autonome de la Turquie, mais c'est aussi un système qui permet à la Russie d'acquérir des données sur les équipements occidentaux qui sont en service en Turquie ou qui pourraient l'être si la vente du F-35 n'avait pas été interrompue. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, à travers son désir de mieux se défendre, qui fait suite à un moment de panique à l'époque du coup d'État militaire avorté, le président Erdogan s'est fait vendre par Poutine quelque chose de tout à fait surdimensionné, qui est tout simplement un véhicule pour la Russie pour miner l'OTAN de l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Dans le système S-400, vous avez plusieurs composantes, et la composante qui compte, c'est ce qu'on appelle le radar d'acquisition, c'est-à-dire le premier élément qu'on met en œuvre, qu'on vient de tester il y a quelques semaines sur la base aérienne de Mourted à l'ouest d'Ankara, et c'est là qu'on calibre le radar par rapport aux équipements qui existent et qu'on détermine comment ils seront considérés comme amis ou ennemis. C'est quelque chose que aucun des pays utilisateurs du F-35, qui, je le rappelle, est pour les 20 ans qui viennent l'avion de combat du monde occidental prédominant, on ne va pas accepter ça. Donc, pourquoi on tergiverse en ce moment? Tout simplement parce que le président Trump tergiverse, ne veut pas punir quelqu'un qui personnellement, il semble-t-il, il apprécie, Erdogan, ne veut pas s'opposer à Poutine, mais en réalité, personne dans l'établissement politico-militaire américain et parmi leurs alliés, dont le Royaume-Uni, dont beaucoup d'autres pays occidentaux, dont Israël, ne veulent que ce système soit mis en place. Donc, ce qui est devant nous, c'est une possibilité de rupture. Alors, comme il a été dit, on ne peut pas expulser la Turquie de l'OTAN, mais on peut prendre un certain nombre de mesures qui viseront à confiner la Turquie dans des opérations moins sensibles. Et on a...
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, d'exclure les militaires turcs d'opérations en Europe orientale, opérations de surveillance, etc. Ça c'est déjà vu dans d'autres circonstances, et ça pourra bien sûr arriver dans ce cas-ci. Mais le risque, c'est que si une première batterie de missiles devient opérationnelle au printemps, puis une autre est mise en place, etc., nous aurons un véritable risque de basculement pour des raisons tant de politique intérieure et de survie politique de M. Erdogan que de stratégie globale de M. Poutine, un basculement de la Turquie de facto en dehors de l'OTAN. C'est ça qui est devant nous pour l'année qui vient.
Et alors, comment ça, quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que la Turquie pourrait, par exemple, fermer l'accès de la base américaine d'Incirlik aux Américains?
Oui, ça c'est une des menaces routinières que formule M. Erdogan avec les Américains, ces deux bases aériennes, avec les Européens, c'est des réfugiés, les djihadistes, etc. Mais au-delà du discours virulent et perturbateur, il faut voir l'image plus globale. Un, vous avez une montée en puissance militaire considérable de la Turquie. Son industrie de l'armement se développe, on déploie de nouveaux matériels, des drones armés à Chypre Nord, des missiles de courte portée qui sont nouveaux. Un porte-hélicoptère sera terminé dans un an, le Anadolu, qui permettra, ça ressemble beaucoup au Mistral français, ça permettra de projeter des hélicoptères de combat et des hélicoptères de transport partout en Méditerranée. Un nouveau type de sous-marin vient d'être lancé avant-hier. Des bases militaires existe au Qatar, en Somalie, il y en aura probablement une en Libye. Donc, vous avez cette montée en puissance. Dans ce cadre-là, s'ajoute, évidemment, le système de défense antimissile russe qui ruine complètement la participation d'Al-Turki au système de défense antimissile de l'OTAN. Quand le président Erdogan parle de la base aérienne de Kouretchik, qui se trouve dans la province de Malatya, c'est quoi? C'est 50 militaires américains qui font fonctionner un radar qui fait partie de la défense européenne. Ce système-là ne pourra pas coexister avec des missiles russes à proximité. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez avoir une modification considérable de l'architecture de défense de l'OTAN à cause de la Turquie. Or, la Turquie, pourquoi est-elle dans l'OTAN depuis 1952 ? Parce que c'est une alliance défensive contre l'Union soviétique à l'époque, la Russie aujourd'hui. Donc, il y a un choix à faire quelque part. Et le discours officiel qui dit, on entend M. Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères, tous les deux jours dire ça, le président Erdogan l'a redit à Londres, la Turquie est amie avec tout le monde, elle a un pied dans les deux camps, etc. Ça ne marche pas dans la configuration actuelle de l'OTAN.
Oui, d'accord. Je voudrais. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quelle est la stratégie de la Turquie en Méditerranée, hein, parce que Ankara a passé un accord maritime avec la Libye. Il veut aussi renforcer ses forages gaziers au large de Chypre. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, les litiges sur les frontières maritimes, les permis de forage, etc., en Méditerranée, ne sont pas nouveaux. Ils datent de bien avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir en novembre 2002. Mais disons qu'ils ont toujours été traités de façon relativement modérée. Aujourd'hui, on constate que les incidents maritimes et aériens se multiplient. Donc, vous avez vu la semaine, il y a quelques jours, une frégate turque chasser un bateau de recherche israélien, qui a immédiatement abouti à une sorte de mini-représailles israélienne par un survol d'avion. Vous avez l'accord, bien sûr, avec sur les frontières maritimes avec la Libye, qui est explicitement présenté comme étant dirigé contre Chypre et la Grèce. Le président Erdogan, hier, a encore redit que certaines des îles étaient des îles grecques qui se trouvent juste devant le rivage turc sont contestées. Vous avez eu, dans certains jours, dans les dernières semaines, jusqu'à 40 incidents aériens dans une seule journée. Donc, on joue avec le feu, là. Pourquoi joue-t-on avec le feu? Bon, d'abord parce qu'il y a cette vague nationaliste. Et pourquoi y a-t-il une vague nationaliste en Turquie? Parce que M. Erdogan, depuis juin 2015, dans les précédentes élections législatives, a constaté qu'il n'est plus majoritaire. Tout simplement, il ne peut être majoritaire que par la force ou plus récemment par une alliance avec le parti nationaliste MHP. Cette alliance a obligatoirement, tout naturellement, abouti à une posture qui est plus anti-occidentale, anti-européenne et bien sûr plus turco-centrée, si je puis dire. Et c'est ça qui est en jeu maintenant. L'AKP aujourd'hui est autour de 30-35% dans les sondages, arrive difficilement dans les meilleurs sondages, à avoir une majorité en alliance avec le MHP, mais M. Erdogan est confronté à deux dissensions majeures, celle de l'ancien Premier ministre Davutoğlu, sur lequel je ne mets pas beaucoup d'espoir, mais surtout celle de l'ancien vice-premier ministre Ali Babacan, qui est une star internationale dans les milieux financiers. Donc, ça, c'est un vrai danger, parce que ça va plus que grignoter les marges très faibles de M. Erdogan. Donc, vous avez, dans une certaine mesure, faut peut-être pas exagérer les mots, mais un certain degré de panique politique. Quand vous avez panique politique dans le contexte turc, vous faites monter le mégaphone nationaliste. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, la chance de M. Erdogan, si je puis dire, c'est que l'Europe, qui a tout à perdre, parce qu'elle doit défendre la Grèce, Chypre, etc., elle a été très modeste jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas comment jouer avec le président Trump, qui est, jour après jour, plus pro-russe que pro-européen. Et donc, on est dans une ambiguïté, dans une sorte d'incertitude très forte par rapport aux États-Unis. Le président Macron a expliqué ça dans son interview en grand détail. Et donc, l'Europe doit, d'une certaine façon, se ressaisir. Mais l'Europe, il faut bien voir qu'elle n'a pas une tradition de parler fort. L'Europe, elle est fondée sur une seule idée, reportons-nous à la déclaration Schuman de 1950, plus jamais ça entre nous, plus jamais de conflit entre nous. Sorte de principe que, par définition, elle applique dans ses relations internationales à peu près tout le monde. Donc les dirigeants européens ont un très grand mal à parler fort aux gens qui leur parlent fort. C'est exactement ce que José Borrell, le nouveau haut représentant pour les affaires étrangères, a dit dans son audition de confirmation au Parlement européen. Il faut que nous apprenions à parler le langage de la puissance. Non pas pour conquérir, mais pour contribuer à un monde plus pacifique et prospère et juste. C'est ça le défi. Évidemment, des démocraties comme les démocraties européennes ont beaucoup de mal à jouer cela face à une autocratie qui est devenue la Turquie, où il n'y a plus de médias, plus de justice, où la société civile est opprimée, où ce matin, pendant que nous parlons, en train de juger Osman Kavala et ses 15 co-descendants, pour une accusation absurde de tromperie.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles, Marc Pirini. Merci. Dorothée Schmitt, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur certains des dossiers concrets. La Libye, depuis quelques semaines, Erdogan menace d'intervenir et de soutenir le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale. Il se retrouverait d'ailleurs en face des Russes qui, eux, soutiennent le maréchal Haftar, la rébellion. Quel est le jeu de Erdogan en Libye ?
C'est clair que la question libyenne, elle nous complique encore beaucoup la prévision de l'année 2020.
C'est un nouveau front.
Ouais, c'est un nouveau front qui est en Afrique en plus. Donc ça se retrouve, on se retrouve à l'interface du Sahel et donc évidemment on a beaucoup d'inquiétudes sécuritaires pour l'Europe aussi. Je vais quand même dire un ou deux mots à la fois répondre à Ariane sur la question de l'avenir de l'alliance, je dirais, entre les militaires et Erdogan, puisque ça rejoint ce qu'a dit Marc Pirini maintenant sur le contexte politique interne en Turquie. Si l'intervention en Syrie a été décidée par Erdogan et qu'elle a été mise en œuvre, c'est aussi pour, effectivement, ressouder ce front nationaliste. Donc, en fait, l'armée turque, tant qu'on lui dit de combattre les Kurdes, le PKK, et les forces kurdes proches du PKK, donc ce parti séparatiste, enfin, théoriquement séparatiste, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent aujourd'hui politiquement kurde, ça marche. Donc aujourd'hui, ce qui est quand même très impressionnant, c'est que l'opinion publique turque, on fréquente tous des Turcs, on est, je crois, assez étonné de voir à quel point on a un front uni nationaliste qui s'est fait derrière l'armée turque sur cette intervention en Syrie. C'est quand même extrêmement impressionnant, y compris de la part de gens qui nous semblent parfaitement rationnels et avec lesquels on avait l'habitude d'avoir des discussions qui fonctionnaient assez bien. Là, on a un blocage complet qui est... le PKK, c'est ça, l'ennemi, l'objectif premier, etc. Et ça, c'est en partie un jeu qu'Erdogan a mis en place. Hein. C'est quand même aussi un sujet qui a été construit hein, pour justement arriver à refaire l'unité autour de lui.
Sauf que le PKK n'est pas en Libye.
Le PKK n'est pas en Libye, tout à fait. Donc c'est là qu'on a...
Encore.
On va avoir... un test en 2020 qui va être de comprendre si la Turquie aujourd'hui se conçoit vraiment comme une force régionale au-delà de son voisinage immédiat, parce que je vous rappelle que la Libye, c'est pas complètement les frontières turques non plus. C'est au Maghreb, c'est une région où finalement la Turquie jusqu'à présent était pas dans des annonces diplomatiques particulièrement flamboyantes, mais c'est une région où la Turquie avait des intérêts économiques. Et ça a été le grand sujet, en réalité, au moment de l'intervention franco-britannique en 2011, ça a été les intérêts économiques turcs en Libye, les milliers de travailleurs turcs qu'il fallait rapatrier. Les Turcs se sont chargés des opérations de rapatriement aussi des Chinois à l'époque. C'est aussi un grand traumatisme de la diplomatie chinoise, cette intervention qui a débarqué Kadhafi en Libye. Et puis après, une situation qui devient... qui un peu comme en Syrie finalement dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer comme fragmentation, comme complexité interne. Et la Turquie qui à la fois aujourd'hui poursuit à nouveau des intérêts économiques parce que paradoxalement même pendant la guerre en Libye le business a repris Et les Turcs ont repris pied également du point de vue économique en Libye. Ils ont aussi un enjeu sur la diversification de leurs sources d'approvisionnement énergétique, comme on l'a vu au Moyen-Orient. Et évidemment aussi un enjeu de puissance avec cette idée qu'aujourd'hui on a dans la région deux fronts qui sont en gros un front saoudien émirien anti-frères musulmans et un front pro-frères musulmans dont la Turquie et le Qatar sont les piliers. Et c'est ça, c'est cet affrontement qui est un affrontement pas ouvert encore vraiment au Moyen-Orient, qui pourrait aujourd'hui s'ouvrir en Libye, avec d'un côté des forces qui sont soutenues par les Émiriens directement, et de l'autre côté les Turcs qui menacent de s'impliquer. Moi j'ai encore des doutes sur la perspective d'envoi de troupes turques en Libye, de soldats turcs. Ça me semble très douteux. En revanche, on sait que les Turcs ont déjà été dénoncés de violer l'embargo sur les armes en Libye, au même titre que la Jordanie, les Émirats, et qu'ils envoient effectivement des armes déjà en Libye.
Encore un développement qui va mettre la relation turco-russe.
Voilà, et ça, c'est un sujet très important. C'est effectivement comment est-ce que ça va se gérer en turco-russe.
Alors justement, apparemment, la Turquie prend le camp opposé à la Russie, apparemment.
Ah ben, puisque, c'est clair et net même.
Puisque la Russie soutient Haftar, qui est donc le général qui dirige les rebelles, tandis que la Turquie soutient le gouvernement d'Union nationale de Sarraj. En fait, si on regarde bien, et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est en train de se jouer une seconde Syrie, là ?
Oui.
Donc, rappelez-vous, en Syrie, il n'était pas du tout sur la même ligne au départ, et finalement...
Donc, la Turquie demande le départ de Bachar el-Assad, et la Russie intervient en Syrie pour sauver le régime de Bachar el-Assad.
Absolument. Donc, est-ce que c'est ça qui va se rejouer en Libye? Alors, là où c'est pas tout à fait comparable, c'est que l'armée russe n'est pas en Libye. Hein, ce sont des milices,
des mercenaires.
Ce sont les fameux Wagner, qui étaient d'ailleurs en Syrie, qui sont là. Ceux qui sont quand même en première ligne en Libye, c'est comme l'a dit Dorothée, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Ça n'est pas la Russie. Et la Russie peut être intéressée. Alors, en plus, la Russie a des accords énergétiques avec le gouvernement d'Union nationale. Donc, la Russie peut être intéressée effectivement de se remettre dans une position. J'ai des contacts avec tout le monde. Et à ce moment-là, effectivement, une fois de plus, la Turquie pourrait être celle qui établit un certain lien quand même, tout en calmant le gouvernement. Il y a quelque chose là qui va se jouer. Et une fois de plus, qu'est-ce que vont dire les militaires? Alors, est-ce qu'on va envoyer les soldats turcs? Moi, je suis un peu comme Dorothée Chimie, j'ai des doutes. Mais cela dit, il y a tellement de choses où on a eu des doutes et qui tombent. Voilà. Mais c'est très intéressant ce qui va se passer en Syrie parce que, on est effectivement d'abord beaucoup plus concerné.
En Libye, vous voulez
dire. Libye, pardon. On est beaucoup plus concerné parce que c'est beaucoup plus proche. Et puis parce que, en fait, toute la démarche, la turque, elle est aussi adressée à Israël, à Chypre, qui sont en train de conclure un accord sur les hydrocarbures au sud de Chypre et qui ont vraiment ostensiblement écarté la Turquie de ces accords. Vous savez, pour les forages, pour l'hydrocarbure. Et donc là, c'est aussi la réponse de l'affaire libyenne, si vous voulez, et la réponse à ce qui se passe autour de Chypre et de cette recherche d'hydrocarbures, dans la mesure où l'accord qui a été signé avec le gouvernement d'Union nationale libyen est aussi un accord maritime, en disant, en fait, nous avons nos frontières maritimes sont beaucoup plus grandes que ce que vous dites. Voilà, on a un accord, et donc ce qui se fait dans la recherche d'hydrocarbures ne peut se faire sans passer par nous.
Dorothée Schmidt, la volonté de puissance régionale de la Turquie, elle se voit en Syrie, elle se voit en Libye, mais que va faire la Turquie au Qatar et en Somalie, où elle ouvre des bases?
Il faut, avant de partir en Somalie, où là pour le moment on est un peu en sommeil, effectivement c'était un front très important pour les Turcs ces dernières années, de montrer qu'ils pouvaient être dans un pays où personne ne va, y ouvrir une ambassade alors que tout le monde part, et faire beaucoup d'assistance humanitaire, mais je pense que là ils ont compris que c'était pas un terrain très très fructueux. Le Golfe, je vais en parler dans deux secondes, je voudrais quand même revenir sur la question de Chypre, parce qu'effectivement, tout à l'heure Marc Pirigny a dit on est habitué aux escarmouches en mer Égée. Bon là on est passé à un niveau tout à fait différent, parce que on est sur un problème de partage de ressources gazières absolument immense, avec des problèmes de délimitation de frontières absolument partout dans la région, c'est-à-dire entre Israël et les Libanais, entre les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs, avec une Turquie qui aujourd'hui... Et là, en fait, dans tout ce que je dis en filigrane, il y a cette question de la diplomatie gazière, de la diplomatie pétrolière dans la région. Il faut savoir que c'est un paramètre maître de la diplomatie russe dans la région, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est aussi après ça que la Turquie court, c'est-à-dire que pour arriver à maintenir son statut de puissance à moyen terme, pour arriver à faire fonctionner l'économie turque, il faut absolument des ressources énergétiques dont la Turquie est totalement dépourvue. Et sur Chypre, on a donc des entreprises occidentales qui ont commencé à forer au large de la République de Chypre, qui n'est pas reconnue par les Turcs en tant qu'État, je vous le rappelle. Et là, on a eu des navires militaires qui sont venus s'opposer à des navires de forage, en escorter d'autres. On a des navires italiens qui est venu, on a des navires turcs tout le temps. Et donc, on est dans une tension qui est une tension quasi militaire au large de Chypre. Or, Chypre est un membre de l'Union européenne. Et là, on arrive à nouveau dans une espèce d'impasse pour l'OTAN qui est celle qu'exprimait Marc Pirini tout à l'heure. Mais pour moi, la Libye, c'est aussi, pour le moment à ce stade, une impasse pour la Turquie, parce que je ne vois pas du tout comment est-ce qu'elle pourrait s'affronter à la Russie. Alors, sauf dans l'hypothèse que Ariane soulevait, qui était de, finalement, permettre une sorte de réunification politique en Libye. Ça sera peut-être plus facile pour les Turcs, dans la mesure où ils ont vraiment un cheval à parrainer, hein, qui est Fayez al-Sarraj, le gouvernement de Tripoli, alors que en Syrie, la réunification n'est pas complètement faite parce que les Turcs et Bachar al-Assad ne sont pas encore aujourd'hui dans des très bons termes. Alors sur le Golfe, je trouve que 2020 va être l'année où il va être absolument fascinant d'observer la façon dont les Turcs vont naviguer entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Si on se penche sur l'état actuel de la relation, on s'aperçoit que malgré tout, la Turquie qui a beaucoup de besoins aussi de financement extérieur pour son économie, elle a encore beaucoup d'argent qui vient des Saoudiens et des Émiriens. En stock, ça reste des investisseurs très importants.
Alors que le Qatar, pas du tout la Turquie et les Saoudiens.
Alors que le Qatar, qui est censé être venu à la rescousse de l'économie turque, n'a pas les poches si profondes que ça et n'aura peut-être pas les moyens de sauver l'économie turque.
Les couloirs sont toujours particulièrement intéressants. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Europe quand même. Ariane Bonzon, la vocation de la Turquie à rejoindre l'Union européenne, plus personne n'en parle. Elle semble appartenir un petit peu au passé. Pourquoi on ne sort pas de l'ambiguïté côté européen ?
Alors, eux disent que c'est toujours une vocation stratégique.
Oui.
Enfin, ça, quand vous avez les diplomates turcs, ils le disent. Mais effectivement,
c'est vrai ?
C'est compliqué.
Oui, oui. Ou c'est de la langue de bois, je veux dire.
Alors, ce qui est compliqué, c'est
quel est le projet, la nature de ce projet stratégique ?
Voilà, quelle est la nature de ce projet stratégique ? Et surtout, quand on voit quand même les envolées anti-européenne, extrêmement violente de Erdogan, c'est quand même un peu inquiétant, effectivement. Bon, le président Macron a très clairement dit en janvier 2018, maintenant sortons de l'hypocrisie, la Turquie n'a pas sa place, la Turquie d'Erdogan n'a pas sa place dans l'Union européenne. Il l'a redit devant les ambassadeurs en août 2018.
Donc, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, pourquoi l'Europe ne sort-elle pas de l'ambiguïté ?
Eh bien parce que les Allemands sont absolument tétanisés par l'histoire des réfugiés et les Anglais, jusqu'ici, enfin ce que on dit dans les milieux diplomatiques, étaient absolument en négociation bilatérale sur tout ce qui est post-Brexit, si vous voulez. Or, c'est quand même ces trois pays-là qui faisaient. Donc, Macron est un peu seul quoi, face à ce dossier-là. Mais effectivement, et alors, bon, Marc Pirini n'est plus là, mais il pourra vous raconter qu'en 2010... Il avait dit à Erdogan, mais enfin, écoutez, vous pourriez négocier, parce que vous savez, il y a une série de chapitres, il y a 5 chapitres qui ont été bloqués, en particulier par d'ailleurs le président Sarkozy, enfin, il y a un certain nombre de chapitres qui ont été bloqués parce qu'on considérait que ça impliquait la candidature turque, enfin, que du coup, la Turquie serait membre de l'Union européenne, or, elle n'avait pas reconnu Chypre. Donc, il y avait eu un certain nombre de chapitres bloqués jusqu'à ce qu'elle reconnaisse Chypre. Bon, mais Pirini raconte souvent qu'il avait dit à Erdogan, mais écoutez, voilà, maintenant vous avez un certain nombre de chapitres que vous pourriez, en particulier sur les marchés publics, vous pourriez négocier ça. Et en fait, Erdogan lui dit, mais écoutez, comment je vais payer mes hommes ? Comment je vais, si je commence à céder les marchés publics, j'aurai plus rien pour tenir mes troupes, quoi. Donc on voit bien que la vraie raison pour laquelle la Turquie est intéressée par l'Union européenne, c'est quoi ? C'est d'avoir des investissements étrangers, parce qu'elle dépend à 75% des investissements étrangers et européens en particulier. Et deuxièmement, cette question de la libre circulation. Il en parle tout le temps, Erdogan. Je peux vous dire que le jour où l'Europe signe la libre circulation des Turcs en Union européenne, c'est fini.
Tout s'arrange.
Il ne demandera plus la candidature de l'Union européenne, et etc. Alors, il y a une chose, en revanche, qu'on pourrait donner à la Turquie aujourd'hui pour éventuellement négocier, ça serait l'approfondissement de l'Union douanière. Mais il y a un blocage, justement, symbolique, en disant on ne va pas leur faire ce cadeau, on ne va pas... Alors, vous savez que l'Union douanière, c'est un accord de commerce, si vous voulez, avec des avantages. Enfin, l'Europe est aussi assez avantageuse. Elle a accès à un certain nombre de marchés en Turquie et vice-versa. Et donc, là, il y a quelque chose à faire. On pourrait très bien approfondir cet accord-là, mais il y a un blocage du côté Union européenne. Donc, voilà où on en est, si vous voulez. Mais la chose importante pour la Turquie, c'est les investissements et c'est la libre circulation.
Et Dorothée Schmidt, la chose importante pour l'Union européenne, c'est le robinet migratoire sur lequel Erdogan a la main serrée ou desserrée selon les périodes.
Oui, mais alors là, je pense qu'on sera... ça, c'est aussi le sujet en 2020 qu'on va tous regarder en Turquie. Moi, je pensais que cette année, on aurait une crise sur la question des réfugiés syriens. C'est la crise a commencé à se mettre en place l'été dernier, où Erdogan a commencé à avoir un discours extrêmement anti-réfugiés. Et l'administration turque a commencé à annoncer des chiffres de relocalisation de réfugiés syriens dans les zones que la Turquie contrôle en Syrie. Et aujourd'hui, on a ce fantasme de relocaliser 1 million, 2 millions de Syriens dans cette petite zone tampon. Je pense que ce qui est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, les réfugiés syriens, si on leur laissait le choix, resteraient en Turquie. Je pense pas qu'ils viendraient en Europe, sauf si on les chasse vers l'Union européenne, parce qu'ils ont compris que c'était pas forcément bienvenu, que la situation était pas si simple que ça, parce que beaucoup d'entre eux ont fait leur vie en Syrie, tout simplement, un conflit qui dure quand même depuis 2011, en Turquie. Oui. Beaucoup d'enfants qui sont nés en Turquie, et que ils n'ont pas envie de retourner en Syrie parce que les conditions ne sont pas réunies, à la fois une attitude punitive de Bachar al-Assad et puis la reconstruction qui n'est pas qui n'a pas débuté et qui ne va pas se faire si facilement que ça. Donc se retrouver installé dans une zone tampon, dans des baraquements ou dans des camps, ce qui était juste qu'on avait réussi à éviter jusqu'à présent en Turquie, puisqu'on a simplement une toute petite partie des réfugiés syriens qui étaient dans des camps. Là, c'est vraiment le dossier brûlant sur lequel on craint tous, je pense, des déplacements forcés de population pour l'année 2020.
Avec ce qui se passe à Idlib actuellement.
Oui.
Avec ce qui se passe à Idlib, ça c'était Idlib était toujours
une nouvelle offensive.
Voilà, il y a une nouvelle
venue vers la Turquie
de réfugiés. Il faut juste ajouter une chose. Si Erdogan a perdu, si la KP a perdu les dernières élections, vous savez, Istanbul, etc., c'est aussi à cause des réfugiés. C'est-à-dire qu'on considère que le gouvernement et Erdogan sont les responsables de ce nombre énorme de 3,5 millions de réfugiés en Turquie qui volent le boulot des Turcs, tout ce qu'on connaît, tout ce discours. Et ça a été quand même l'affaiblissement. Il le sait très bien, ça, Erdogan. Il faut qu'il fasse quelque chose par rapport à son électorat qui le critique énormément sur ses portes ouvertes aux réfugiés. Am dara ayazı ruhumu keser Bir cebimde yok Kapital bir cebimde Kenevir tohumu Ayrancı cebeci kenedi yokuşu Kaybettim gene şu yolumu Kafam taşak gibi Karnımız aç Napsak şimdi Süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve salam Yerim kafam düşer tekrar 30'lar canım Ah polisle kaç
Vous écoutez Chérimi Moutadi de Ezel, un rappeur d'Ankara. C'est la fin de Culture Monde. Merci à Dorothée Schmidt, chercheur à l'IFRI. J'avais estropié votre fonction, veuillez m'en excuser au début de l'émission. Merci à Ariane Bonzon et merci à Marc Pierini d'y avoir participé. La série sur les disrupteurs se poursuit demain avec Donald Trump. Tout de suite, la grande table d'Olivia Gezbert. Karanlık çöktüğünde